les silences de Dieu par rapport à Jésus, par rapport à Marie. Et il est bien évident que le mystère du sépulcre, tel que Marie l'a vécu, ça nous est révélé à travers ce grand silence qu'il faut respecter, mais en même temps qu'on doit essayer par tous les moyens, c'est-à-dire en interrogeant l'Esprit Saint, c'est le grand moyen. Il y aurait aussi, en regardant d'autres parallèles dans l'Écriture, et le parallèle de l'Annonciation, de l'Avent, considéré à cet autre Avent, ce sont deux grands Avents, l'Avent de Marie, qui attend son fils bien-aimé, Marie qui reçoit le don du Père, le Verbe qui doit se faire chair en elle, Marie qui garde le secret et qui se tient dans cette attitude d'abandon complet. C'est ce que l'Esprit, c'est ce que l'ange réclame d'elle. Elle doit vivre dans cette totale remise à l'égard de la volonté de Dieu sur elle, sans avoir d'initiative personnelle. C'est bien cela que l'Esprit Saint, par l'intermédiaire de l'ange, réclame de Marie pendant tout ce temps de l'Avent. La seule initiative qu'elle peut avoir, c'est une initiative de charité fraternelle auprès d'Élisabeth, sa vieille cousine. Ce temps de l'Avent, il est vécu d'une manière tout autre, parce que c'est un autre Avent. C'est l'attente de la résurrection de Jésus. Mais c'est aussi un avant. Et je dirais vécu avec une intensité prodigieuse. La rapidité de cet avant. 3 jours, hein, nous disons 3 jours. Il faut bien comprendre que les 3 jours sont assez particuliers. Heureusement, du reste, c'est que c'est la fin du vendredi. Le samedi, toute la nuit, du vendredi au samedi, le samedi, et sans doute au milieu de la nuit, à Noël, à minuit, je veux dire, la résurrection de Jésus. C'est comme ça que la liturgie nous fait fêter. Ce temps rapide est une attente qui se réalise dans un abandon plus profond, plus pauvre, plus dépouillé que le premier, puisque c'est dans l'absence, c'est le vide. Marie séparée du cadavre de son fils, Marie qui vit ce mystère du cadavre de Jésus, et Marie qui vit la descente aux enfers. Marie vit cette brisure, cette mort, cet état cadavérique, ce silence de mort. Pas le même silence que celui de l'Avent. Elle vit dans l'abandon. Et comprenons bien, il s'agit d'un abandon divin. Et là, l'ange n'est pas présent pour lui dire. Ce sont les faits. Et la brutalité des faits. Quand il y a un envoyé de Dieu, il y a toujours une modalité très douce, qui peut être très ferme, mais qui est... Tandis quand ce sont des faits, alors c'est la violence du fait. Et là, c'est la violence de la mise au tombeau, de la blessure du cœur, de la mort. Si Marie doit vivre de la mort de Jésus, elle doit être dans un abandon qui la met dans cet état de mort. Parce que vraiment, elle meurt dans son cœur de mère à l'égard de Jésus. Et la séparation pour respecter ce grand sabbat, le sabbat de Pâques, fait que cette mort est vécue dans une solitude plus grande. Et donc, dans un dépouillement plus profond. Et dans cette attitude d'abandon douloureux, éprouvant, violent, il y a une extrême pauvreté et un grand désir, l'espérance de Marie pendant ce temps d'attente, cette espérance contemplative, parce qu'elle est vécue dans cet abandon plaignée, cette espérance de Marie qui fait qu'elle a une telle soif. De la résurrection de Jésus. C'est peut-être là où il serait bon pour nous, toujours pour mieux pénétrer ce mystère, de comprendre le cri de soif du Christ. Et ce cri de soif du Christ a peut-être été donné pour que Marie puisse vivre cette attente. Une attente n'est vivable que quand elle est soutenue par un très grand désir. Et quand il n'y a plus de désir, alors l'attente devient insipide, impossible. Elle n'a plus d'orientation. Elle n'est plus finalisée. C'est ce désir intense, cette soif. Et c'est là où je me demande si Jésus, qui est Dieu de la croix, est tout entier tourné vers le Père et porte tellement Marie, si Jésus n'a pas prononcé ce cri de soif, ne l'a pas dit pour que Marie puisse, au-delà de la mort, garder la soif. La soif dans ce mystère de la résurrection. Il est sûr ce mystère d'attente, c'est le mystère de la très grande pauvreté et de l'espérance des pauvres. C'est pour cela que c'est comme le fruit dans notre âme, dans l'âme de Marie, comme un fruit merveilleux de l'Esprit Saint, le Père des pauvres. Et l'Esprit Saint est si proche de Marie à ce moment-là, puisqu'elle n'a plus aucun secours qui lui vient de Jésus. Tout ce qui lui vient de Jésus la blesse, c'est le glaive. Est-ce que l'Esprit Saint ne lui donne pas cette très grande soif qui dépasse la présence physique et l'absence, et qui qui met Marie dans cette attitude d'une espérance contemplative, d'une pauvreté suprême. C'est vraiment l'espérance des pauvres, de la pauvre. Et c'est cela qui nous fait comprendre comment, par cette soif, Marie a hâté l'heure de la résurrection. Parce que Jésus ne pouvait pas la laisser plus longtemps attendre. Tellement la soif dévorait son cœur et son âme. Il est sûr que les prières de Marie et la soif de Marie, cette soif contemplative de Marie, a coopéré à sa manière au mystère de la résurrection. Et cette coopération ne peut être que pour hâter l'heure de la résurrection. L'espérance brûle le temps, vous voyez. C'est ça qui est si grand dans l'espérance. Quand l'espérance diminue, quand l'espérance n'est plus vécue, le temps devient très long. Des nuits sans espérance, c'est toujours très très long. Quand il y a une espérance très intense, c'est-à-dire quand il y a un désir très intense, ça nous donne une force qui fait que la succession du temps et la longueur du temps est comme brûlée. C'est vrai que l'espérance divine, c'est toujours un appel à une promesse éternelle qui doit se réaliser. C'est le bientôt de Dieu qu'on demande, qui devienne pour nous un bientôt immédiat. Marthe aimait le dire que le bientôt de Dieu n'était pas notre bientôt. On voit très bien ce que ça veut dire. Mais dans l'espérance divine, nous souhaitons, nous désirons que le bientôt de Dieu soit notre bientôt. Et nous désirons que ce bientôt de Dieu se réalise de la manière la plus forte, la plus immédiate qui soit. Tellement notre âme a soif, et tellement l'âme de Marie a soif du mystère de la résurrection. Jésus avait promis d'envoyer le Paraclet. Jésus avait promis, avait annoncé la résurrection. En 3 jours, je le ressusciterai. Il avait dit ça à propos de son corps, alors que tous ceux qui étaient autour de lui le comprenaient par rapport au temple. Marie, elle, avait compris ces paroles de Jésus d'une manière divine. C'était bien son corps qui devait être brisé et ressuscité en 3 jours. Et c'était ces paroles de Jésus par rapport au mystère de sa résurrection qui alimentaient son espérance et qui permettaient à son espérance d'être divine. Là, nous voyons bien toute la différence qui existe entre le premier avant et cet avant si spécial. Je précise encore à propos de la soif de Marie, à propos de cette soif et de ce cri de soif qu'elle a reçu du cœur de Jésus, qui la maintient dans cet appel. Si nous regardons, voyez, nous revenons toujours aux sept paroles de Jésus, n'est-ce pas ? Et c'est bien, puisque c'est toujours ces sept paroles de Jésus qui sont la nourriture de Marie durant ce temps d'attente. Mais c'est une nourriture vécue de façon toute divine, et c'est pour ça que le cri de soif a dû pendant ce temps prendre une importance unique dans le cœur de Marie. Si vous regardez attentivement le texte de Saint Jean, vous voyez que Jésus prononce ce cri de soif après avoir donné Marie à Jean. C'est assez significatif. Il y a un ordre. Il a donné Marie à Jean en se dépouillant lui-même de ce lien personnel, jaloux, d'une jalousie divine, que le Père avait réalisé entre son cœur et le cœur de sa mère. Ce lien était d'une qualité divine unique. Et d'une certaine manière, il demandait de s'exercer de cette manière toute personnelle, individuelle, puisque c'est une maternité selon la chair et le sang. Rien n'est plus individuel qu'une maternité selon la chair et le sang. Et donc ces liens qui existaient entre Marie et Jésus étaient incarné au sens le plus fort. Jésus veut que ce lien soit communiqué à Jean. Jésus accepte dans sa pauvreté de vivre de cette jalousie divine qui consiste à aimer gratuitement ce qui nous a été donné gratuitement, sans y mettre aucune exclusivité, parce qu'un amour gratuit ne peut être vécu gratuitement que s'il n'y a aucune exclusivité. Et pour notre sensibilité humaine, c'est une purification ultime. C'est la grande purification de la sensibilité. Et ça ne peut se faire qu'au niveau divin, de l'amour divin. Notre volonté se purifie avant. La purification de la sensibilité par l'amour divin, c'est ce qui est le plus ressenti. Normalement, quand un amour est si personnel et si intense, il réclame comme petit signe d'être unique. Dans la sensibilité. Et donc, d'exclure les autres. S'il est unique, il exclut. Le Père, en donnant Marie à Jésus, pour qu'elle soit sa mère, réalise ses liens d'une jalousie divine, des liens d'abord dans le cœur. Elle a d'abord conçu dans sa foi dans son espérance et son amour avant de concevoir dans sa chair. C'est un secret qui est porté dans la foi, l'espérance et l'amour. C'est un secret qui lie Jésus et Marie d'une manière unique. Elle est immaculée pour pouvoir vivre de ce secret, pour pouvoir vivre de cette maternité selon la chair et le sang, l'ayant vécu d'abord d'une façon toute divine. C'est donc, on pourrait dire, si vous voulez, que c'est d'abord le cœur dans ce qu'il a de plus profond, le cœur de Marie dans ce qu'il a de plus profond, qui est purifié pleinement et totalement dans ce mystère de l'Annonciation. Et on pourrait dire que c'est la sensibilité de Marie, sa chair de mère, qui est purifiée d'une autre manière, mais d'une manière radicale. À la croix. Comprenez bien la sensibilité de Marie qui est prise par sa maternité divine selon la chair et le sang. Cette maternité divine est toute pure. Il n'y a aucun repliement sur elle-même. Il n'y a aucun accaparement. Être la mère de Dieu exige d'exercer une maternité dans la pauvreté. On n'a aucun droit sur son enfant bien-aimé, puisqu'il est fils de Dieu. Et Marie le sait, et Marie l'accepte. Ça fait partie du fiat. Autrement, on demanderait quelque chose sans faire comprendre les exigences de cette nouvelle alliance. Quand Marie dit son fiat, elle est consciente, oh, d'une conscience divine, donc peu explicite, une conscience qui réclame d'elle un don total. Parce qu'être mère de Dieu, ça réclame un don total à l'égard de celui qui sera son fils et en même temps le fils du Très-Haut. Toute la vie que Marie a vécue avec Jésus depuis l'Annonciation jusqu'à la croix a permis à cette maternité divine et humaine de s'expliciter dans des liens multiples. Et les liens de Marie avec Jésus n'ont cessé de croître, et n'ont cessé de croître au point de vue de l'expérience, au point de vue humain. C'est la différence avec une autre maternité, vous comprenez bien. Dans les autres maternités humaines, on ne peut pas dire que les liens de l'enfant et de la mère ne cessent de croître, non. L'enfant est très uni au début, et puis quand il grandit, ben, il y a une autonomie plus grande. Il se sépare davantage et donc il est moins dans la dépendance. Quand il s'agit de Marie et de Jésus, cette maternité étant une maternité contemplative, divine, elle implique une amitié divine et qui assume tout l'humain. Et c'est pour ça qu'on peut dire que les liens entre Jésus et Marie n'ont cessé de croître. Et Marie a vécu une maternité toujours plus parfaite, dans des liens plus intimes et plus forts avec Jésus, jusqu'à la croix. Et la croix donne comme un sommet de cette union et de cette intimité, puisque par la compassion, elle achève dans son âme ce qui manque à la passion de Jésus. Elle fait la même œuvre que son fils bien-aimé. Elle est liée à lui comme celle qui complète, achève tout le grand mystère de la rédemption. C'est ce que nous disons quand nous disons qu'elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle coopère d'une manière si intime et si profonde au mystère de la rédemption qu'elle est une avec Jésus rédempteur. Elle est la mère du rédempteur. Mais pour être la mère du rédempteur, elle est l'épouse du cœur de l'agneau. Elle est celle qui est Sotchia, celle qui aide Jésus pour que son sacrifice soit plaigné, pour que son sacrifice s'étende sur tout ce qu'il y a de plus secret, de plus intime, de plus spirituel dans une âme humaine. Et c'est en ce sens-là que Marie achève ce qui manque à la passion de Jésus. Et comme le mystère de la compassion est un mystère d'amour, c'est un mystère qui relève d'une amitié divine, assumant une amitié humaine, nécessairement, par le mystère de la compassion, la sensibilité de la Très Sainte Vierge connaît à l'égard de la sensibilité de Jésus un lien nouveau. Sa sensibilité est broyée avec celle de Jésus. Elle souffre avec lui, elle compatit, donc elle souffre avec lui. Elle pâtit dans sa sensibilité, au plus intime de son cœur, mais dans sa sensibilité. C'est impossible autrement, puisque c'est un mystère d'amour. Et c'est au moment où la maternité divine de Marie, à l'égard de Jésus, atteint son sommet, c'est au moment où l'unité entre Marie et Jésus est la plus forte et d'une certaine manière demanderait d'être la plus exclusive. Les joies, ça se partage plus facilement, et les souffrances ont toujours un côté plus exclusif. Ça, c'est un fait au point de vue psychologique. La joie, ça se partage plus facilement. Les secrets joyeux, si vous voulez, ça se partage plus facilement. Tandis que quand il s'agit d'un glaive et d'une souffrance, il y a quelque chose qui réclame que ce soit unique et exclusif. Quand quelqu'un souffre avec une très grande intensité, comme c'est difficile, hein, de pouvoir pénétrer dans sa souffrance. De pouvoir pénétrer dans sa souffrance. On sent toujours qu'on est un petit peu à côté. Tandis que quand quelqu'un est joyeux, on entre tout de suite dans sa joie. Comme c'est difficile, hein, d'entrer dans la souffrance de quelqu'un quand cette souffrance est très aiguë. Notre sensibilité n'est pas meurtrie tout à fait de la même façon. Entre la sensibilité de Jésus crucifié et celle de Marie à la croix, a quelque chose d'unique que nous devons contempler. C'est le Père qui l'a voulu de cette façon. Le nouvel Adam est lié à la nouvelle Ève d'une manière qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer selon notre psychologie humaine. Et c'est pour ça qu'au niveau psychologique, nous ne pouvons pas pénétrer dans ce mystère. Nous ne pouvons y pénétrer que dans un regard contemplatif, par la charité divine, et comprendre cette unité si forte qui se réalise à la croix entre Jésus qui s'offre et Marie qui l'offre. Et en l'offrant, Marie elle-même s'offre. Elle complète, je vous l'ai déjà dit, l'aspect victimal de Jésus et même son aspect sacerdotal. Elle est le complément de tout le mystère de Jésus, agneau immolé, dans sa sensibilité et au plus intime de son cœur et de son intelligence. Ce qui fait comprendre combien ils sont un. Père, qu'il soit un comme nous. Là, on peut dire qu'entre Jésus et Marie, il y a une unité qui ne peut se comprendre que dans la lumière de l'unité de la très sainte Trinité, entre le Père et le Fils, entre l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Jésus donne un ordre à Marie, femme, et c'est bien celle qui lui est totalement relative, celle qui vit tout ce que Jésus vit, femme. C'est pour ça qu'il dit femme, il ne dit pas mère, parce que justement, il y a tout ce mystère de complémentarité de la femme relativement à l'homme, de la nouvelle Ève relativement au nouvel Adam. Femme, voilà ton fils. Jésus donne la femme, celle qui lui est si intimement tenue, celle qui est sa mère. Il la donne à Jean. Toute cette unité dans la souffrance, dans l'Holocauste, est communiquée à Jean, est donnée à Jean. Que c'est celle qui vit le mystère de la compassion qui est donnée à Jean. C'est celle-là qui est la femme. Et c'est celle-là que Jean reçoit. Il la reçoit dans sa foi, dans son espérance et son amour. Là, nous voyons bien comment l'amour divin dépasse complètement le mode humain et que l'amour divin se donne gratuitement sans aucune exclusivité, sans aucun accaparement. Il se donne comme il est reçu. Il est reçu gratuitement, il se donne gratuitement. Marie a été donnée gratuitement à Jésus et Jésus la donne gratuitement à Jean. Et vous voyez bien toute la différence du don. Le Père donne à Jésus l'Immaculée Et Jésus donne à Jean la femme pauvre, la femme compatissante, la femme qui est tout entière appuyée sur son bien-aimé au désert. Quand elle monte du désert, c'est celle-là qui est donnée à Jean. Et donc nécessairement, pour la sensibilité de Jésus et pour la sensibilité de Marie. Et quand je parle des sensibilités, je ne parle pas seulement, je parle de tout l'aspect affectif, passionnel, qui existe en Jésus et en Marie. Même si on est obligé de dire les pro-passions pour le Christ, on sait très bien, saint Thomas le dit, que la passion est réellement dans le Christ. Et la purification, l'expérience de purification, elle est là. Sa sensibilité était parfaite, absolument pure, mais elle aurait pu ne pas connaître ce nouveau dépassement qui est une brisure. Ce nouveau dépassement qui consiste justement à faire que celle que le Père lui a donnée soit donnée à Jean. Et nous soit donnée. Et qu'elle nous est donnée avec la même intensité qu'elle est donnée à Jean, avec la même qualité qu'elle est donnée à Jean, pour qu'elle soit notre mère. Après avoir réaliser cette union, cette alliance nouvelle, si importante, parce qu'elle est justement toute gratuite et qu'elle relève d'une initiative du Christ, d'une initiative ultime d'amour, et qu'elle implique ce très grand dépouillement et cette très grande pauvreté, qu'elle exige cette pauvreté et qu'elle la réalise. Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie. Après avoir réalisé ce don, Jésus dit : j'ai soif. Plus on est pauvre, plus Jésus a soif de se donner à nous. Jésus vient d'appauvrir sa mère, exiger d'elle cet ultime dépassement. Et Marie, quand elle est reçue par Jean, est plus pauvre qu'avant. C'est pour ça que Marie rend toujours pauvres ses enfants. Dire, c'est son premier travail. Son premier travail, c'est de rendre ses enfants de vrais pauvres. Parce que elle n'est notre mère que dans cette extrême pauvreté et dans cet extrême dépouillement que nous pouvons tous saisir. Parce que c'est à la fois tellement humain et tellement divin. C'est toujours dans l'ordre de l'amour d'amitié, c'est toujours dans l'ordre du mystère de charité divine que les deux points, l'aspect divin et l'aspect humain, sont tellement mêlés. Et comment l'amour divin réclame des purifications qui sont quelque chose que seul l'Esprit Saint peut réaliser. C'est au moment où Jésus donne Marie à Jean, où Jésus connaît ce dépouillement, intérieur, ce dépouillement de la volonté du cœur. À ce moment-là, où Jésus prononce le cri de soif. Et nous voyons très bien la manière dont ce cri est reçu. Les femmes, pleines de compassion, qui suivaient Jésus et qui avaient une grande pitié vis-à-vis de lui. Il est si beau, si jeune, en pleine force, et condamné comme un esclave. Elle pouvait comparer, c'était assez facile, Jésus au milieu des deux autres. Le cri de soif de Jésus, il est reçu par ces braves personnes comme une soif au niveau biologique, au niveau humain, qui est vrai. Jésus a eu soif sur la croix de cette soif-là, puisqu'on le sait que la mort d'un crucifié, c'est les douleurs et les souffrances de la soif qui sont les plus terribles. Jésus a eu soif, mais vous comprenez bien que cette soif que Jésus a connue au niveau humain est tout de suite assumée par une soif infiniment plus grande. Sa soif d'être tout entier tourné vers le Père. Sa soif d'être encore plus donné à Marie. Cette plénitude de charité qui est dans le cœur de Jésus, qui s'exerce dans cette initiative ultime, c'est la dernière pour les hommes, pour Marie. J'allais presque dire, c'est l'adieu. Et l'adieu du Christ à Marie et aux hommes ne peut être que ce cri de soif. Après, Jésus remet tout entre les mains du Père. C'est très étonnant, si on est attentif à ces sept paroles de Jésus sur la croix, de voir toujours le regard vers le Père, le regard vers les hommes, le regard vers le Père. Et puis, ce regard vers Marie, vers Jean, puis cet appel, j'ai soif, qui unit les deux, cette soif, c'est à l'égard du Père, parce que l'amour qui existe dans le cœur de Jésus à l'égard du Père n'est pas satisfait. Il veut glorifier le Père. Et il peut glorifier le Père qu'en l'aimant comme fils bien-aimé. Et l'œuvre de la croix, si grande qu'elle soit, c'est la plus grande des œuvres. Il n'y a pas une œuvre plus grande que celle-là. C'est l'œuvre du Fils bien-aimé. C'est l'œuvre de l'homme parfait qui Ce n'est qu'amour. C'est la plus grande des œuvres, et cependant cette œuvre n'est pas adéquate, et donc exprime mal, insuffisamment, parfaitement, mais insuffisamment. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'elle exprime mal. Cette intensité d'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus, qui est infinie. Il y a un amour infini dans le cœur de Jésus pour le Père. Et l'œuvre de la croix, l'holocauste de la croix, est limitée. C'est une œuvre. Jésus exprime comment il y a en son cœur un désir que tout soit offert au Père. Au-delà de l'œuvre, il y a l'amour. L'amour dans ce qu'il a de plus pur. Toute œuvre présuppose un amour, et toute œuvre est le fruit d'un amour, et la croix est le fruit d'un amour. Mais l'amour est plus. Et l'amour est plus que l'œuvre, puisqu'il en est la source. Et Jésus est conscient de cela. Jésus n'est pas enfermé dans son mystère d'Holocauste. Son mystère d'Holocauste s'achève dans une contemplation d'amour, dans une pure contemplation d'amour, la pure contemplation du Fils bien-aimé à l'égard du Père. Et le cri de soif exprime justement que ce Fils bien-aimé dépasse tout ce que représente l'œuvre et va infiniment plus loin. J'ai soif. Les hommes comprennent matériellement. Marie comprend divinement. Et ce cri de soif qui regarde le Père regarde aussi Marie. C'est du même amour que Jésus aime le Père et Marie. Il y a deux exercices différents dans l'ordre de l'amour, mais c'est substantiellement le même amour. Et donc on peut dire si le mystère de la croix est totalement pour Marie, Jésus veut faire comprendre à Marie qu'il y a quelque chose de plus encore. Son amour personnel, intime, au-delà de toutes les réalisations. À l'égard du Père, c'est ce regard contemplatif. À l'égard de Marie, c'est la pure charité fraternelle, l'exercice du don de sagesse permet à l'amour à l'égard de Dieu d'avoir justement ce côté si limpide de la contemplation, la sagesse qui permet la contemplation, qui est source de contemplation. Quand il s'agit du don de sagesse, ce don permet à la charité, à l'amour à l'égard du Père, de s'exercer d'une manière contemplative, dans toute sa limpidité d'amour et dans tout son absolu d'amour. Et le don de sagesse peut aussi diviniser l'exercice de la charité fraternelle. Pour que la charité fraternelle soit vécue d'une manière toute pure, au-delà de toute œuvre, c'est le regard, c'est le sourire de Jésus à Marie, c'est le sourire de Marie à Jésus. Marie reçoit cet appel. Et étant donnée à Jean, elle reçoit cet appel. Vous voyez ce que ça peut signifier. Étant donnée à Jean comme mère, il y a l'appel du Père pour qu'elle soit encore plus donnée et que l'amour qu'elle a pour Jean soit entièrement brûlé et remonte vers le Père. Je crois que c'est ce cri de soif que Marie va vivre d'une manière si intime pendant ce mystère du sépulcre. Plus on s'approche du mystère de la résurrection, plus le cri de Jésus est fort. Plus il est impératif, c'est un cri substantiel qui prend tout. C'est le cri de l'enfant au désert. Et Marie vide ce cri en se donnant dans cette soif. Dans cette soif que la victoire de Jésus se manifeste, se montre. Que la victoire de Jésus à la croix puisse tout prendre, le feu nouveau. C'est bien cette soif. Et Marie a cette soif brûlante dans son cœur. Que Jésus ressuscite pour le Père et pour elle. Et qu'il brûle tout ce qui est en elle. Non pas pour réaliser une œuvre, mais pour que l'amour soit aimé. Et que l'amour soit pleinement aimé à la manière dont l'amour demande d'être aimé. Vous voyez pour nous comment ce mystère du sépulcre, comment ce samedi saint doit mettre en nous un nouvel élan d'espérance, toute transformée par l'amour. Un cri qui est celui de Jésus, qui est celui de Marie, vécu au plus intime de notre cœur. Cet appel vers Jésus qui vient. Ça exige une extraordinairement, une très grande pauvreté jusque dans notre sensibilité. Une pauvreté analogue à celle de Marie, que Marie a connue quand Jésus l'a donnée à Jean. Et que nous soyons pauvres jusque dans notre sensibilité. Que notre sensibilité soit transformée par l'amour divin et que cette sensibilité n'a plus aucun accaparement, plus rien d'exclusif. Et qu'elle soit livrée à l'amour et cet amour de feu pour qu'elle l'alimente et lui permette d'aller jusqu'au bout. C'est cela que nous devons demander à Marie de vivre. C'est cela que nous devons demander à Jésus de vivre pleinement. Que tout soit brûlé tout soit offert. Et que, par ce cri de soif, notre contemplation et ce dynamisme intérieur qui fait que nous sommes entièrement offerts pour accomplir pleinement et totalement la volonté du Père, sachant très bien que cela ne peut se réaliser que par l'Esprit Saint et en lui.